Béthanie est un village existant encore aujourd'hui au nord de Jérusalem. On peut le voir, on peut y aller. Ça s'appelle El Aizari, en arabe, Lazare. Donc les musulmans aussi qui sont présents là, les Arabes qui habitent tout près de Jérusalem juive, ont une grande vénération pour l'ami de Jésus, pour Lazare. Et quand on y va, c'est vraiment à la frontière naturelle avec le désert. Al-Aizariye, Béthanie, se trouve juste sur la crête de Palestine, hein, donc c'est sur les sommets, et il peut arriver qu'il pleuve, la pluie arrive de l'ouest de la mer, et elle peut encore pleuvoir sur Béthanie, les nuages. Ensuite, c'est le désert qui descend de manière vallonnée jusqu'à la dépression de la mer Morte, 1000 mètres de dénivelé. Vous imaginez le paysage, d'un côté la vie, d'un côté la végétation vers l'ouest, de l'autre côté le désert, et ensuite vous voyez les monts de Moab, la Jordanie, et le désert de Jordanie qui va jusqu'en Irak. C'est un paysage fabuleux, entre la vie et la mort, vraiment, là. Un jour, les sœurs de la Nigrizia sont des sœurs italiennes, des missionnaires en Afrique, m'avaient demandé de prêcher la retraite à une centaine de sœurs de l'Union des religieuses de Terre Sainte. Et c'était juste dans leur maison qui est là, près de la tombe de Lazare. Donc c'est impressionnant de prêcher une retraite, d'animer une retraite pendant une semaine. Près de la tombe de Lazare, vous pouvez y aller tous les jours, la tombe traditionnelle de Lazare. Alors, à cause des destructions-reconstructions, maintenant il y a beaucoup d'escaliers pour y descendre. Donc ça fait toujours impression aux pèlerins quand on peut y aller, parce que c'est juste à côté du mur de séparation juif et arabe, hein, Israël et territoire de Palestine. Il y a le mur qui passe juste à côté de la tombe de Lazare. Donc ça aussi, ça impressionne. Ce n'était pas encore le cas en ce temps-là. J'étais jeune, j'ai juste 26 ans que j'avais prêché cette retraite. Et donc les pèlerins sont toujours surpris de devoir descendre si bas par l'escalier jusqu'à la tombe de Lazare, et ils y vont par groupe de trois. Et certains rigolos, des pèlerins, il y en a toujours un ou deux, s'amusent à, quand les trois pèlerins sont en bas, là, dans la grotte, c'est pas une grotte, mais c'est la tombe de Lazare, hein, qui est traversée par ces escaliers à cause de ces pierres qui ont été détruites et reconstruites, donc ça fait une couche supérieure, hein. Il y a toujours un pèlerin qui s'amuse à répercuter la parole de Jésus et qui dit aux trois qui sont en bas, « Lazare, sors du tombeau !» Voilà, et puis les pèlerins remontent et sortent de cette expérience. Mais c'est pas la résurrection de Jésus, c'est pas la grotte, c'est pas le sépulcre, c'est pas le Saint-Sépulcre que l'on peut visiter aussi. Et là, on ne s'amuse pas parce qu'il y a les moines orthodoxes avec leurs barbes et leurs muscles qui veillent à ce que les pèlerins se comportent bien et qu'il n'y ait pas d'écart, qu'il n'y ait pas de plaisanterie autour du Saint-Sépulcre. Hein. Voilà, c'est autre chose. Mais c'est vraiment autre chose parce que la résurrection de Jésus, c'est le passage à une dimension différente, quoi. Hein. C'est comme le papillon qui sort de la chrysalide. C'est une autre dimension. Quand Jésus ressuscite, il entre dans des maisons, dans le cénacle, la porte fermée, les portes restent verrouillées. Vous voyez, si on fermait les portes de Saint-Pierre et Saint-Paul, il serait là quand même. Voilà, il serait là et il sera là, ressuscité, vivant. Là, pour Lazare, hein, c'est une réanimation. Il va se réanimer. Paraît-il, viendra-t-il en Gaule, hein, Après, il faut voir hein, quel Lazare, celui de Vézelay, celui d'Aix ou celui de Marseille. Ça, il faut faire des analyses ADN. Puis il y a une autre tombe de Lazare qui est à Chypre. Donc je me suis amusé une fois à leur demander aux moines de Chypre orthodoxes. J'aurais dit, on ne pourrait pas faire une analyse ADN pour comparer et voir si c'est celui de Marseille ou celui de Chypre qui est l'authentique. Et ils rigolent pas. Hein. Oh, ils m'ont fait une tête. Bon, en tout cas, pour dire que ce n'est qu'une réanimation. Ce n'est qu'une réanimation parce qu'il va mourir, ou à Marseille, ou à Chypre, ou à Vézelay, je ne sais pas, mais ou à Aix, allez. Non, mais là, c'était un évêque. Mais il va mourir. Il va mourir. Donc, c'est pas, il n'assume pas c'est pas la dynamique du ressuscité de Jésus-Christ. C'est une réanimation seulement. C'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous qui, aussi comme Lazare, allons mourir un jour. Eh bien, ça veut dire qu'au cours de notre vie, il y a peut-être des étapes de maladie. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons des absences d'animateurs. Et Julie, qui a voulu sauver la situation, est un peu enrhumée elle-même, mais merci de nous avoir sauvés, parce que c'est grâce à toi qu'on n'est pas au fond du sépulcre. Donc peut-être que cette célébration nous rappelle, aux uns et aux autres, que dans notre vie, il y a des étapes de maladie qui nous surprennent. Il y a des moments où on va moins bien, il y a des moments où on a besoin d'être réanimé. Et c'est le cas de Lazare. Jésus le vit avec tous ses sentiments. C'est beau de voir ces vrais sentiments d'amitié chez Jésus, ses émotions, ses sentiments. Jésus vivait des relations réelles avec les gens. C'était profond, c'était vrai. Il pleurait, il s'émouvait, il souffrait de la mort de son ami. Il souffrait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là autour de ce tombeau de Lazare? Jésus arrive, il aurait pu venir plus tôt. Il rencontre d'abord Marthe et puis Marie. Et à un certain moment, il se pose devant le tombeau de Lazare. Vous voyez, il se pose là. On avait vu comment il avait réanimé la Samaritaine, comment il a réanimé Bartimée, comment il fait revivre, on l'a vu, la Samaritaine en particulier, et puis même le village qui s'est mis à revivre à cause de cette rencontre, ça on s'était rendu compte, mais on se disait, la Samaritaine c'est une personne comme nous, vivante, Bartimée il est vivant, mais là il est mort, Lazare il est mort, qu'est-ce qui se passe? Jésus se pose devant la tombe de Lazare. Et là, il invoque son père. Donc il est face à la tombe. Il invoque son père. Et c'est comme si dans cette relation à son père, oui, c'est ce que dit l'Évangile, dans l'esprit, dans la relation à son père, dans l'esprit, au moment où il crie vers son père, Lazare se ranime. Comme quoi, il n'y a pas que les vivants, pas que la Samaritaine qui reprend vie, pas que l'aveugle qui reprend vie, mais même les morts reprennent vie. Même les morts, même les malades peuvent être réanimés par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, maintenant. C'est cela le message d'aujourd'hui. Quand on entre dans l'Esprit de Dieu, on est réanimé. Ce que disait cette semaine le pape à des groupes de chrétiens du monde entier qui sont venus à Rome et qui prient souvent l'Esprit Saint, eh bien, le pape leur disait, oui, faites vivre l'expérience de celui qui fait revivre, de celui qui régénère, de celui qui guérit, de celui qui bande les plaies, de celui qui, auquel même les morts ne résistent pas, qui revivent parce qu'ils sont insérés dans la relation de Jésus au Père. Ça, c'est le message d'aujourd'hui pour nous. Alors les catéchumènes, les premiers, dans cette étape de troisième scrutin vont être témoins de cette rencontre avec le Christ qui guérit, le Christ qui réanime. Mais c'est nous tous qui allons être réanimés, peut-être pas autant que les enfants, peut-être pas autant, mais en tout cas, eux, ils sont animés. Hein. On voit qu'ils sont électrisés par l'Esprit Saint qui passe là, l'Esprit de Jésus au Père. Hein. En tout cas, voilà, que ça nous aide à revivre, à reprendre vie, à redevenir des oasis. Hein. Le village qui passe du désert à la vie, c'est possible aujourd'hui, grâce à l'Esprit de Jésus.